France Inter. Ce matin, sur la chaîne, nous célébrons l'enfance et vous avez entendu que nous donnions la parole aux enfants et à ceux qui œuvraient pour eux. Et nous allons nous plonger ce soir dans l'univers espiègle et burlesque de l'auteure et illustratrice Dorothée de Montfred, qui a déjà publié plus de 60 albums jeunesse, ce qui signifie qu'elle a dû commencer bien avant de naître. Inventeuse de la série des toutous, ce qui ne peut passer sous mon radar car les chiens sont, dans ma mythologie personnelle, de l'ordre du sacré, elle fut à l'initiative du premier grand jury jeunesse du Festival d'Angoulême qu'elle présida. Parmi ses ouvrages, dont beaucoup sont traduits dans de nombreuses langues, on trouve différents animaux, mais aussi de chics humains, comme dans la série Marimoto, destinée aux plus de 7 ans et que j'avais beaucoup appréciée malgré mes 126 ans. Dorothée de Montfred s'inspire de la musique, la danse, la philosophie et d'à peu près tout ce qui l'entoure. Elle a aussi signé des romans jeunesse et des albums pour adultes, comme La Curiosité, Les Choses de l'Amour, qui aborde la sexualité sous un angle pudique et décalé en mettant en scène des rapports intimes entre objets. Parmi ses quelques collaborations, citons ses dessins pour un ouvrage collectif consacré à Jack Lang et son suivi de l'écologiste Yannick Jadot pour Carnet de campagne, projet coordonné par Mathieu Sapin et dans lequel 5 auteurs suivaient la campagne présidentielle d'un candidat. Elle vient de publier 2 ouvrages, Fantaisie lyrique dans les coulisses de l'Opéra de Paris aux éditions Charivari, d'Argo, c'est ça ? Et le super livre de contes des toutous qui revisite les contes classiques à l'école des loisirs. Et sachez que pendant que je vous parle, les chiens imaginaires rebondissent partout dans le studio. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Dorothée de Montfred.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Oh, alors ça c'est très facile de vous répondre. Je suis allée au Lido il y a très peu de temps pour aller voir Les Demoiselles de Rochefort. J'avais une vague hésitation au moment de prendre mes billets parce que je trouve que c'est jamais une bonne raison d'aller voir un spectacle, d'y aller par nostalgie ou parce qu'on a aimé le film d'origine. Mais j'y suis allée quand même parce que une des chanteuses de ce spectacle est un des personnages de ma bande dessinée, Marine Chagnon. Et ça a été une joie totale, je pense que j'ai été hilar du début à la fin, c'était fantastique, j'ai adoré ce spectacle.
Bah, ça donne très envie d'y aller.
Ah ouais, c'est dingue.
Ah oui, je suis jamais allée au Lido, ça doit être...
Mais c'était la première fois, et puis musicalement, c'était vraiment excellentissime, et c'était bondissant, c'était joyeux, c'était moderne, très très bien.
Vous disiez, au sujet de votre album pour adultes, Les Choses de l'Amour, tous mes livres ont en commun de s'intéresser à la nature humaine, de la comprendre, de l'expliquer. Ici, les objets ne sont pas simplement des choses, mais des personnages qui racontent l'humanité dans ce qu'elle a de plus vital. Est-ce que vous l'aimez, cette humanité ?
Bah oui, elle m'intrigue, et puis j'en fais partie, donc j'essaye de comprendre, je ne suis pas sûre de comprendre.
Vous êtes souvent perplexe face à elle ?
Tout le temps. Parfois, on voit qu'il y a plus de différence entre deux humains qu'entre un humain et un chien. Donc c'est une source de questionnement permanent, quoi. Même quand je regarde comment fonctionnent mes collègues dessinateurs et auteurs, je suis parfois très étonnée comment fonctionne leur cerveau pour arriver à imaginer des choses pareilles ou à dessiner comme ça. Déjà, rien que ça, c'est un mystère insondable. Donc voilà, si on étend ça à toute l'humanité, il y a beaucoup à explorer.
Aimeriez-vous faire plus de choses pour adultes ? Vous en avez fait déjà pas mal, mais...
Oui, bien sûr, mais j'ai toujours trop de projets par rapport au temps disponible. Et oui, j'ai envie d'explorer toutes les facettes de ce qui me passe par la tête. Des choses pour enfants, des choses pour adultes.
J'avais en moi, tout de même, des aspirations spéciales qui me sont venues dès l'enfance. Je me souviens de mon premier contact avec l'univers, lorsque je me suis trouvé devant la mer, dans le vent. Il faut vous dire d'ailleurs, pour vous expliquer cela, je vais lâcher avant les bœufs, que j'ai été élevé dans un petit coin du golfe du Lion, au Cap Le Hecate, sur une petite presqu'île qui fut longtemps une île, pays de vignes et d'amandiers, de murs de pierres sèches, où souffle un vent impitoyable. Et là, j'étais tout seul, je n'avais aucun petit camarade, mes grands-parents m'élevaient. Je suis resté jusqu'à l'âge de 6 ans sans rien connaître d'autres amis que le vent. Ce vent qui me courait après, me cinglait les jambes avec du sable. Je jouais avec lui, je lui prêtais une âme. Même dans les grands bâtiments vides pendant l'hiver où habitaient mes grands-parents, lorsque je l'entendais siffler dans les couloirs, il me faisait peur. Je lui prêtais une âme quand j'en prêtais à toute chose. Eh bien, c'est là que m'est venu ce désir d'aventure, si vous voulez appeler cela ainsi, mais le désir de me confondre avec tous ces petits dieux que je mettais dans toutes les choses.
Bon, vous l'avez reconnu tout de suite, Dorothée de Monfred, c'est Henri de Monfred dans Avoie nue sur France Culture en 1956. Vous êtes son arrière-petite-fille, c'est un écrivain et aventurier. Et moi, j'ai imaginé qu'il avait déjà eu une influence sur votre imaginaire.
Forcément, parce que, évidemment, moi j'ai baigné dans les récits de mon arrière-grand-père depuis ma naissance. Alors, pas forcément en lisant les livres, parce que je les ai lus un peu plus tard, mais enfin, les récits que me transmettait mon père. Je suis la première des petits-enfants, enfin, de ces arrière-petits-enfants dans la famille, donc je suis la seule parmi tous mes cousins qui l'ait connu alors que j'étais bébé, donc ça rajoute un peu au lien entre nous.
Vous avez une photo avec lui ?
Oui.
Et vous dites que vous avez en commun avec lui l'anticonformisme, l'esprit d'indépendance et un vrai problème avec l'autorité.
Bah oui, je dois bien me résoudre à ça, c'est vrai.
Ça se manifeste comment votre problème avec l'autorité ?
Alors, je la comprends pas, en fait. Si je fais face, par exemple, enfin, si je dois travailler avec des gens dans un bureau où il y a une hiérarchie, par exemple, et qu'il faut que je demande quelque chose à quelqu'un, je suis incapable de respecter la chaîne hiérarchique, et moi, je vais au plus direct, et généralement, ça se passe mal si je fais ça.
Comme un enfant.
Et oui.
Ça tombe bien.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Dorothée de Monfred, nous célébrons l'enfance avec vous ce soir. Ma première question est la suivante. Pourquoi la plupart des adultes perdent la fantaisie qu'ils avaient enfant selon vous ?
Alors ça, j'avoue que je ne sais pas du tout et ça m'étonne toujours parce que a priori, il me semble que tous les humains qui ont un jour été enfants devraient avoir l'enfance en eux. Enfin, c'est une colonne vertébrale, c'est des fondations, tout se construit là-dessus. Pour moi, c'est un truc incontournable et il me semble que tout le monde devrait avoir ça aussi présent à l'esprit que moi. Je vois que c'est pas le cas, je ne sais pas pourquoi.
Avez-vous gardé intacte votre part d'enfance ?
J'espère. Après, je sais pas, je me souviens que quand j'étais petite, j'avais l'impression de très bien comprendre certaines choses et je voyais que les adultes mettaient un temps infini à comprendre une situation et j'avais l'impression d'être beaucoup plus pertinente qu'eux. Mais le truc, c'est que je suis pas capable de voyager dans le passé pour vérifier que j'avais vraiment raison ou peut-être je me trompais et que j'avais surtout beaucoup d'illusions. C'est possible.
Dans quel domaine êtes-vous la plus et la moins adulte ?
La plus et la moins adulte. La plus adulte, peut-être quand je dois faire de la comptabilité, ah ouais. Ça c'est pas marrant.
Ça doit être pour ça qu'on perd notre fantaisie.
Ouais, c'est possible. Et la moins, quand je fais de la danse, peut-être. Ouais.
Alors je me souviens, je vous avais reçu il y a des années et vous aviez parlé de votre goût pour la danse. Est-ce que vous en faites toujours ? Vous faites toujours le même type de danse ?
Eh mais j'ai recommencé à en faire en fait, parce que j'avais arrêté, parce que je m'étais fait mal au pied.
Et vous là... pouvez rappeler ce que c'était, parce que c'est assez
oui.
rare.
Alors ça s'appelle du solo jazz, mais en fait c'est du charleston, voilà, et j'ai rechuté cette année.
J'ai rechuté dedans, mais
non, j'ai rechuté dedans. Je suis pas tombée, mais par contre, je reprends des cours et c'est vraiment la joie, ce truc-là aussi, parce que c'est une des seules danses que je connaisse où on peut faire à peu près n'importe quoi tant que c'est assumé et en rythme.
C'est super.
Donc c'est super. C'est vraiment très très drôle.
C'est à deux.
Non, le solo jazz, c'est seul.
Ah et oui, solo.
Quand,
bah oui.
Ouais, quand c'est à deux, ça s'appelle du lindy hop.
Ah voilà, mais je pensais que vous faisiez du lindy.
J'en ai fait aussi, mais en solo, on peut faire encore plus.
Ah, c'est beaucoup. Ça, c'est vraiment une phrase réjouissante. En solo, on peut faire encore plus.
Ouais.
Pour une fois, je pense que toutes les solitudes qui nous écoutent et qu'on a en nous vont se réjouir. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez petite ?
Alors, je lisais beaucoup des livres de Roald Dahl. Ça, c'était vraiment...
Illustré par Quentin Blake ?
Ouais, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencée, beaucoup marquée, comme plein de gens. Qu'est-ce que je lisais d'autre ? Sampé Goscinny,
ouais.
Le petit Nicolas, ces choses-là. Je lisais des bandes dessinées, je lisais Les Frustrés, qui n'étaient pas du tout
de
mon âge.
Claire Bretéché. Mais...
Ouais, voilà, Claire Bretéché. J'aimais bien parce que je sentais que je ne comprenais pas tout. Et j'adore ça, en fait.
Ne pas tout comprendre ?
Oui, je trouve que c'est bien quand on sent qu'il y a des sous-couches qu'on attendra peut-être un jour ou peut-être pas, mais ça donne de la profondeur.
Vous avez des enfants ?
J'ai deux enfants, ouais, deux filles.
Elles sont petites ou grandes ?
Non, maintenant elles sont assez grandes.
Qu'est-ce que vous leur lisiez à elles, en dehors de vos albums, quand elles étaient petites ?
Alors, je leur lisais surtout Ariol. Ariol, c'est Inusable, c'est la bande dessinée de Emmanuel Guibert et Marc Boutavant.
Oui.
Avec un petit âne qui va à l'école. Enfin, c'est vraiment de la vie quotidienne. Mais il y a énormément de fantaisie, en même temps que de la justesse par rapport aux situations et aux sentiments des enfants. Et ça, c'est... vraiment les livres qui résistent à tous les tris de bibliothèque. C'est formidable.
Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans ce qui plaît aux enfants aujourd'hui ?
Alors, ce qui plaît aux enfants, là, j'ai un peu lâché l'affaire dans le quotidien, parce que mes filles sont plus grandes, donc je ne sais pas trop. Par contre, je constate sur les adolescentes et les jeunes filles à quel point le monde a changé, quoi. Vraiment, il y a des choses qui ne passent plus du tout. Et finalement, au début, ça me paraissait étrange, et maintenant, je trouve ça bien. Je trouve que c'est très bien qu'on n'arrive plus à lire certaines choses ou qu'on soit choqué par d'autres. Voilà. Donc le monde change et c'est bien, et moi ça me fait changer aussi dans ce que j'écris.
Et est-ce que quand vous rencontrez des enfants dans les salons ou dans les librairies, vous trouvez qu'ils ont changé depuis que vous vous adressez à eux ?
C'est vachement difficile de répondre à cette question, hein, parce qu'il faudrait là aussi être capable de voyager dans le temps pour comparer.
Ouais. Peut-être que vous remarquez plus de questions similaires, plus d'interrogations d'un certain type.
Je remarque dans l'ensemble quand même pas mal d'anxiété aujourd'hui. Mmh. Ça, ouais, à tous les âges.
Est-ce que vous notez aussi le fait qu'on aborde beaucoup plus cela dans la littérature jeunesse, justement des sujets comme la mort ou des sujets qui étaient tabous pendant longtemps, l'anxiété, la dépression, le suicide ?
Je dirais que...
J'ai l'impression d'en voir plus en librairie.
Je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus. Il y a eu peut-être pas mal d'années où c'était des sujets qui étaient vraiment mis à distance ou très très cachés en sous-texte. Mais peut-être qu'encore avant, ça existait, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses qu'on aborde plus franchement et dont on a envie de parler, en fait, simplement. Ouais.
Vous, ce qui vous plaît dans la littérature jeunesse, c'est la liberté qu'elle garantit. C'est une des raisons qui vous a fait choisir aussi en majorité ce champ. Est-ce que parfois vous vous censurez ? Est-ce que parfois vous vous dites « non, ça je peux pas le mettre parce que quand même ça s'adresse à un public trop petit ou... »
Je me censure pas, mais disons, il peut m'arriver de me dire « tel sujet, c'est mon point de vue d'adulte et donc ça va pas du tout intéresser un enfant ». Donc c'est pas vraiment de la censure, mais c'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre au bon endroit pour savoir ce qu'on veut dire. Après, bah voilà, je vais pas dessiner des choses pornographiques pour des enfants, ça c'est une évidence. Voilà, mais c'est pas de la censure en fait, c'est juste qu'est-ce qui est juste par rapport à l'enfance dans tel ou tel sujet. Mais le sujet, quel qu'il soit, je pense qu'il peut être abordé aussi bien pour des enfants que pour des adultes.
Moi, en général, je commence par la tête. Donc je fais une forme générale avec les oreilles de l'ours. Au fur et à mesure, je sculpte un peu le visage. Je mets les yeux. Je dessine les yeux parce que les yeux, c'est le regard. C'est la chose la plus importante. C'est comme ça qu'on s'attache à un personnage. Pour lui donner un regard plus perçant, je lui fais une pupille plus foncée qui précise le regard. Pour équilibrer un peu le dessin, je rajoute un peu du sombre qui a une certaine harmonie. Voilà comment j'ai dessiné un ours.
Dorothée de Monfred, la première raison qui vous a fait vous approcher de la littérature jeunesse, c'était la liberté. Et la seconde, c'était votre rencontre avec Grégoire Solotareff, qu'on entend sur la chaîne en février 2024.
Oui, mais oui, c'est vrai. En fait, je lui ai écrit comme une fan il y a un paquet d'années. Et puis, je suis allée lui montrer mes dessins. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, quand lui-même est devenu éditeur, je suis devenue une de ses autrices dans la collection Loulou et compagnie. Et c'est toujours mon éditeur aujourd'hui.
Waouh! Vous avez fait les Arts Déco. Qui avez-vous appris de plus précieux ?
Alors, aux Arts Déco, j'ai pas vraiment appris directement mon métier parce que j'étais en section graphisme, donc on faisait plus de la mise en page, de la typographie, ce genre de choses. Ce que ça m'a vraiment appris, et je vois à quel point aujourd'hui c'est une force, c'est la conception de la page, la mise en scène au sein de la page. Et ça, c'est une force que j'ai, que les auteurs n'ont pas forcément tous. Et c'est vraiment un plus. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment travailler le lettrage, enfin la manière de dessiner les lettres que j'ai appris en faisant de la typographie aux Arts Déco. Alors, à l'époque, mes profs aux Arts Déco n'aimaient pas trop ma façon de faire parce que je ne voulais jamais utiliser des vrais typos. Je faisais ça à ma sauce en dessinant directement. Donc, ils me disaient toujours que ça n'allait pas. Mais n'empêche, aujourd'hui, je fais ça sur mes livres et c'est une des raisons principales pour lesquelles j'aime faire des livres, dessiner des lettres. Donc, ça vient quand même un petit peu des Arts Déco.
Est-ce qu'on peut dessiner pour les enfants sans avoir fait d'école d'art ?
Ah, bien sûr que oui. Ce qui compte, c'est d'avoir un univers et d'avoir envie de raconter quelque chose.
Alors, votre premier ouvrage pour la jeunesse date de 99, c'était Le chien du lapin. Ça commençait donc par ces deux animaux. Vous avez dessiné plein d'autres animaux, des cochons, plein d'autres. Et alors, on vous pose toujours la question, pourquoi dessinez-vous des animaux plutôt que des humains, même si vous avez aussi dessiné des humains? Et ça semble vous ennuyer. Alors, permettez-moi de citer la réponse qui figure sur votre site, comme ça je ne vous pose pas la question. Les animaux, c'est marrant à dessiner. Écoutez bien les auditeurs et tous les journalistes pour ne pas poser cette question. C'est marrant à dessiner, on peut se permettre des tas d'exagérations, ça donne une certaine distance qui aide à faire passer les choses, un peu comme dans les fables. Et puis il faut avouer que les jeunes enfants ressemblent plus à des animaux qu'à des humains.
Bah c'est vrai, non?
Oui. Ou à des gens en état d'ébriété.
C'est vrai aussi.
Oui. Quel animal seriez-vous?
Peut-être un chat quand même, oui.
Avant l'émission, je vous ai fait faire des essais de voix et donc je pose toujours des questions un peu absurdes aux invités pour cela. Et je vous ai demandé si vous aviez déjà eu des animaux de compagnie et vous m'avez répondu quelque chose vraiment auquel je ne m'attendais pas.
Oui, parce que je n'ai jamais eu ni chien ni chat, mais par contre j'ai eu des phasmes. Les phasmes, vous savez, c'est des espèces d'insectes en forme de brindilles, couleur beige comme ça, qui se multiplient très vite et qui sont assez calmes.
Vous leur donniez des prénoms ?
Alors, c'était les phasmes de mes filles. Je pense qu'ils avaient des prénoms, mais moi, j'avoue que j'ai oublié.
Bon, c'est pas grave.
On leur a fait des cercueils en papier quand ils sont morts.
Oh, c'est très mignon.
J'avais dit que je parlerais pas de la mort de mes phasmes.
Oui, mais c'est pas grave.
C'était
pas...
beau.
Les enfants comprennent plus que les adultes. On prend tellement de précautions avec eux. Justement, vous qui avez œuvré pour les petits philosophes dans Pomme d'Api, vous savez, avant la 20e heure, il y a toujours l'émission de Camille Crenier, Les Petits Bateaux, où des enfants posent des questions à des adultes, à des experts. Est-ce que finalement les enfants posent plus de questions philosophiques que les adultes? Parce que les adultes sont plus dans la vie matérielle.
Ah oui, ça c'est très vrai. C'est très vrai parce que les enfants ont à la fois le sens du jeu et de la gravité tout le temps. Donc, et ils osent poser les questions sans avoir peur de l'image que ça pourrait renvoyer. Donc oui, ça c'est très vrai et c'est ça qui est tellement intéressant.
Est-ce qu'on a le même type de peur? Je pense à votre album Nuit Noire avec un petit garçon, le héros s'appelle Fantin, il se balade dans la forêt, il voit des animaux sauvages un peu effrayants, il a peur, il rencontre un lapin qui lui a la solution que je ne dévoile pas pour effrayer ceux qui effrayaient Fantin. La peur, ça évolue? Pourquoi est-ce qu'on aime tant frissonner enfant?
Parce que ça permet peut-être de se connaître, de voir comment on réagit face à quelque chose, d'expérimenter. Alors en tout cas, quand on a peur devant un film ou un livre, on sait qu'on est en sécurité. Donc c'est agréable d'essayer des choses comme ça. Quand on a vraiment peur, souvent c'est la peur de la peur aussi. Alors que quand on a juste peur, on va réagir peut-être par l'action ou par une réaction, ce qui est différent. Donc jouer à avoir peur, c'est pas la même chose. Et c'est intéressant aussi.
Je n'ai besoin de peur. Sonne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson.
Dorothée de Monfred, vous avez fait une série à mi-chemin entre le roman et la bande dessinée, c'est Marimoto, dont j'ai passé Harley Davidson de Brigitte Bardot pour l'introduire, parce que c'est une petite fille de 10 ans qui emprunte la vieille moto de sa grand-mère pour des aventures. Et je voulais vous interroger sur les modèles féminins qu'on peut trouver justement quand on est enfant. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui, heureusement. Avant, c'était très difficile de trouver des modèles.
Bah, c'est vrai, c'est pour ça que la plupart des petites filles avaient des modèles masculins, parce que évidemment, si on voulait faire des trucs cool, ouais, c'était les garçons qui les faisaient dans les fictions, dans les films comme dans les livres. Donc voilà, moi j'ai voulu faire avec ce livre, en effet, une héroïne qui fait ce qu'elles font pas d'habitude, et puis la mettre dans toutes les situations qui font peur aux adultes.
C'est-à-dire ?
Alors elle conduit une moto toute seule.
Oui, ils font peur aux adultes pour les enfants.
Ouais, voilà. Elle rencontre un homme nu dans une gare. Elle se retrouve à sauver des gens dans un restaurant inondé. Et puis après, elle a un accident, quoi. Donc, mais en fait, tout est assez marrant et ça finit très bien et il n'y a rien de grave. Mais voilà.
Est-ce que vous vous amusez quand vous dessinez ?
Ah bah oui, bah sinon ça ne marche pas. Disons que si je ne m'amuse pas, il faut que je reconsidère ce que je suis en train de faire, c'est que je ne l'ai pas pris par le bon angle.
Vous dites que pour cultiver l'esprit d'enfance, il faut lutter contre la dévalorisation du secteur. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler du modèle économique et de ce qui se passe?
Je ne sais pas si c'est le modèle économique qui crée les problèmes, mais J'ai l'impression que c'est un truc assez français où on sépare de façon complètement étanche le monde de l'enfance et le monde de l'adulte. Je ne sais pas pourquoi, vraiment, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça donne une espèce de regard des adultes sur les enfants, comme s'ils étaient peut-être un peu inférieurs ou qu'on ne les comprenait pas, ce qui est extrêmement dommage. Et donc, cette mauvaise image, elle déteint sur tout ce qui a trait à l'enfance, que ce soit l'école, les profs, les pédiatres, enfin, les femmes. Et c'est vraiment très très dommage pour toute la société, alors que c'est le socle de tout. Donc, j'ai l'impression que valoriser les choses de l'enfance, ça peut faire que du bien à notre société.
Et les avances aussi baissent.
Ah oui, sur les financements, les droits d'auteur et tout ça, c'est compliqué. Hein. De toute façon, l'édition devient un secteur de plus en plus difficile et les auteurs sont souvent... ont du mal à gagner leur vie, quoi. Donc c'est sûr que ça progresse pas vraiment dans le bon sens. Ouais.
Vous travaillez beaucoup plus, justement, pour maintenir un niveau acceptable.
Oui, pour rester à peu près pareil, je travaille 4 fois plus qu'avant, oui. Et moi, j'ai la chance de gagner ma vie avec ce métier, donc je sais que je suis très privilégiée par rapport à plein d'autres.
Vous avez milité pendant 3 ans pour créer le grand jury jeunesse du Festival d'Angoulême.
Alors oui, j'avais la chance de faire partie d'un comité de sélection, parce que le directeur artistique du festival de l'époque m'avait appelé à venir, et donc moi je l'ai tanné pendant tout le temps, je faisais partie de ce jury pour créer un jury spécifique, professionnel pour les prix jeunesse, parce que auparavant les prix jeunesse n'étaient décernés que par des groupes d'enfants, ce qui est très bien, mais sauf que ça faisait que en fait personne ne faisait attention à ces prix parce qu'on disait c'est rien, c'est donné par des enfants. Très dommage. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau jury qui a été créé, spécifique jeunesse, et les prix sont décernés par un jury professionnel, ce qui fait qu'a priori, il est mieux valorisé. Alors l'idéal serait qu'on puisse aussi avoir des jurys enfants qui seraient valorisés comme les jurys adultes. Mais on n'en est pas encore là, mais je trouve que c'était une avancée quand même très notable de la part du festival d'avoir accepté de faire ce changement.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Ah, c'est dangereux d'être avec toi. Ça va, Charlie?
Mais toi,
Charlie! Mais quel rôle!
Oh!
Salut, Charlie!
Salut.
Charlie!
Oui. C'est moi.
Charlie, c'est mon héros.
Alors là, on pourrait penser qu'il s'agit d'une comédie. On entend la bande-annonce de Charlie, Tous les chiens vont au paradis, un film d'animation de Don Bluth, sorti en 89. Un chef-d'œuvre, enfin je l'ai vu quand j'étais petite, et un grand traumatisme sur cassette VHS, Dorothée de Montfred, puisque c'était l'histoire d'un chien qui mourait, qui allait au paradis, qui était doublé par Burt Reynolds quand même en anglais, et par Richard Darbois en français, qui fait Harrison Ford, Danny Glover, Mickey Rourke, et à peu près tous les acteurs américains qu'on connaît. Et la question est la suivante, comment aborder les choses tristes pour les enfants ?
Déjà en les abordant, en les évitant pas. J'ai l'impression que depuis que la scène de la mort de la mère de Bambi dans le film Bambi a été supprimée du film...
Elle a été supprimée ?
Mais oui, elle a été coupée du film pour pas traumatiser les enfants, du coup on comprend plus rien. Ça, je trouve que c'est vraiment la moins bonne manière... D'aborder les choses avec des enfants.
Et Dumbo, on pleurait aussi dans Dumbo.
Je l'ai pas vu, Dumbo.
Oh là là. Je vous dis pas pourquoi alors. Et bon, vous avez à votre actif la série des Toutous.
Oui.
15 albums à peu près ?
Peut-être 16, je sais plus.
Le premier opus, c'était 2012, c'est la vie quotidienne d'une bande de chiens. Et vous avez ajouté de plus en plus d'éléments documentaires dans ces albums, notamment dans Les Toutous à Paris, qui est sorti en 2019.
Absolument, oui.
Où vous voyez des plans vraiment très bien dessinés de Paris, des endroits que vous fréquentiez petite.
Oui, parce que j'ai eu envie de ne pas être que dans l'imaginaire, en fait, d'ancrer ce travail qui est complètement fantaisiste dans le réel de ma vie, donc dans ma ville, avec le dessin de Paris. Parce que ça, déjà, ça ancre les choses et puis ça donnait un effet de réalité au personnage. Et c'est allé beaucoup plus loin que ce que j'espérais même, cette histoire d'effet de réel. Parce que maintenant, j'ai des tas d'enfants qui font la visite de Paris avec mon album, qui m'envoient des photos de la porte de l'immeuble d'Oncle Jacob, Oh. Et j'ai dessiné la vraie porte de la vraie couleur. Et il y a même quelqu'un qui habite dans l'immeuble, qui voit les enfants arriver avec le livre. Il m'a dit, j'habite l'immeuble, donc le Jacob. Et il y a même quelqu'un d'autre qui a enregistré l'adresse, donc le Jacob, toujours, dans Google Maps.
Oh.
Donc, je trouve ça génial, parce que voilà, les personnages existent.
Alors justement, il y a une question d'une petite fille de 8 ans, prénommée Una, qui est la fille de Lola Costantini, qui réalise l'émission. Une question pour vous.
Est-ce que vous connaissez quelques-uns de ces chiens dans la vraie vie ?
Alors non, malheureusement, je ne les connais pas dans la vraie vie. Mais mes chiens, je les ai inventés. Maintenant, c'est comme si je les connaissais dans la vraie vie, mais je ne les ai pas encore rencontrés physiquement.
Bah, ça va peut-être venir.
Mais oui, parce qu'on est en train de travailler à un dessin animé.
Ah oui ?
Ouais.
Ah !
Ouais.
Et quand vous les avez dessinés, vous vous êtes inspiré de photos, glanées dans des albums ou sur Internet, ou de chiens qui passaient devant vous ?
Non, je me suis documentée à partir de vrais chiens et de photos de chiens. J'en ai dessiné jusqu'à ce que je m'approprie les formes. Et voilà.
Des chiens n'ont pas posé pour vous dans studio ?
C'est un peu difficile de faire poser des chiens.
Je sais, mais je sais pas, ça me...
Ouais, ça aurait été marrant, franchement, il faudrait le faire un jour.
Donc le dernier opus de votre série canine, c'est le super livre de contes des toutous, paru à l'école des loisirs, qui revisite 5 contes classiques, Blanche, Jane et les 7 toutous.
Oui.
Donc je ne dis pas de quel conte il s'agit, c'est assez facile. Sans pas bon, là c'est Cendrillon. Le toutou au petit os, la princesse au petit pois. Le grand méchant toutou, le petit chaperon rouge. Et le toutou au bois dormant, la belle au bois dormant. N'importe quelle œuvre avec un chien, c'est mieux de toute façon, non ?
Bah oui, bien oui, sûr, on est bien d'accord.
Alors dans Blanche, Jane et les 7 toutous, au début, 2 chiens se tournent le dos et sont chacune face à leur miroir et elles disent miroir, miroir, d'un côté qui est la plus belle, de l'autre côté qui est la plus drôle. Qu'est-ce que vous préférez ?
Bah qui est la plus drôle,
bah
bien
oui,
sûr.
Je suis d'accord, bah oui, vraiment. En plus ça dure toute la vie ça.
Bah oui, bien sûr.
Dans Sans pas bon, on apprend qu'on peut aimer faire la vaisselle. Le ménage.
Bah oui, c'est vrai. Vous saviez pas ?
Non.
Et bah voilà. Parce qu'ils font des glissades à la fin dans un couloir, oui, sur des balais, sur pierre.
Si on a un château, oui.
Oui, voilà, il faut certaines conditions pour que ça marche.
Oui. Bon, non, mais ça, on va s'arranger.
C'est pas obligé, hein.
Alors, on apprend aussi que le chien mouillé sent l'éponge.
Oui, il me semble, non ?
Moi, pour moi, c'est plus fromage, pied mélangé.
Mais peut-être que les éponges sentent fromage, pied
mélangé, oui,
aussi.
Ah oui, oh, mmh, c'est vrai que les éponges, oui, ouais, n'y pensons pas. Mmh. On découvre aussi qu'un gâteau au chocolat peut être un ennemi.
Bah oui, ça c'est connu dans
le milieu des chiens.
Ouais, voilà. Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Oui, ça les empoisonne.
Oui, d'ailleurs, on m'a reproché ça.
Ah bon ?
Mais oui, parce que j'ai fait un livre où, mais évidemment, mes chiens sont pas des vrais chiens. Ils ont plutôt un quotidien d'enfant. Donc, ils mangent des choses que les chiens ne devraient pas manger. Et j'ai eu parfois une ou deux fois des courriers de gens qui me disaient : attention, vous donnez du raisin et du chocolat à des chiens, c'est un scandale.
Beaucoup de gens scandalisés.
Ils vont mourir.
Oui, non, ils ne mourront pas, contrairement aux phasmes. Alors, il n'y a rien d'effrayant dans les contes que vous avez repris. On sent vraiment qu'il y a de la tendresse.
Oui, alors ça, c'était quelque chose d'important parce que je voulais rester cohérente avec les caractères de mes personnages. Et dans les contes, ça peut être très cruel, il y a des méchants qui sont atrocement méchants, mais j'ai eu besoin vraiment de travailler beaucoup pour savoir où mettre le curseur. Est-ce qu'il pouvait y avoir un vrai grand méchant ou pas ? J'aurais pu ajouter des méchants, mais comme j'avais déjà 9 chiens, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et si c'était mes chiens qui jouaient le rôle du méchant, je trouvais que s'ils étaient vraiment trop méchants, c'était plus cohérent avec le personnage. Donc en fait, voilà, j'ai un peu joué avec ça pour qu'ils soient un peu méchants, mais dans les limites du plausible par rapport au caractère du personnage.
Est-ce que vous avez des chiens préférés ?
Alors ça dépend. Je les aime bien tous, mais par exemple, mon chien préféré en dédicace, c'est Omar, parce que comme il a les oreilles noires, ça me permet de faire un truc assez graphique. Sinon, j'ai pas de préféré, et en fait, j'aime pas trop avoir des préférés. Enfin, j'aime bien tout le temps changer de préféré, surtout.
Oui, c'est bien, c'est démocratique. Moi, je vous avoue que j'ai un fait pour Popoff,
ouais,
parce qu'il soigne avec de la grenadine.
Ouais, ça c'est pas mal.
Mais il ronfle, ouais, très fort. J'ai lu plusieurs albums. D'ailleurs, Docteur Popoff, c'est paru en 2020.
Oui.
Les toutous faisaient semblant d'être malades, ils les soignaient avec de la grenadine. Est-ce que c'était une façon d'aborder la crise sanitaire, justement, à l'adresse des enfants ?
Mais en fait, je l'ai écrit juste avant, c'est ça qui est dingue.
Ah bon ?
Mais oui.
Vous êtes
oui,
visionnaire ?
Oui, je suis visionnaire.
Suis-je la fleur de lune ?
Standard de ce soir, Françoise Hardy, Fleur de Lune, et il est l'heure de découvrir vos choix musicaux, Dorothée de Montfred, liés à l'enfance. La Femme, Nouvelle-Orléans.
Oui, j'adore ce groupe que je suis vraiment depuis le tout début. J'ai souvenir d'un concert absolument mémorable à la Flèche d'Or, avant la sortie de leur premier disque. J'ai jamais eu aussi chaud de ma vie et depuis je suis tout ce qu'ils font avec grand plaisir.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Chance de s'en sortir, s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau.
Stupéflip, le spleen des petits. Est-ce que vous l'avez souvent observé, ce spleen dont on parle peu?
Ah mais oui. Oui, oui, bah oui, et puis en plus les enfants souvent ils passent d'un état d'âme à un autre très rapidement. Et oui, oui, ça arrive très, très facilement, rapidement, ça se mélange à d'autres émotions. Et oui, on n'en parle pas tellement. Bah, Stupéflip, il a beau avoir un côté très rentre-dedans et drôle, il y a beaucoup de sensibilité, je le connais depuis pas si longtemps, mais c'était vraiment une très belle découverte, quoi.
Je suis l'enfant sur la banquette arrière, le taliban dans un container. Je suis, celui qui dit je suis.
Alors on peut pas passer tous vos choix, Dorothée de Montfred, mais on les mettra sur le site internet. Là c'est Bertrand Burgala, l'enfant sur la banquette arrière.
Ouais, j'adore ce que fait Bertrand Burgala depuis des années. C'est de la pop sophistiquée, littéraire, avec toujours des harmonies un petit peu bizarres. J'adore ça. Et cette voix très simple, comme ça, j'aime beaucoup.
Vous avez fait des albums musicaux aussi, comme Super Sauvage, avec la musique de Tony Truant. Vous faisiez du violon petite, vous faisiez partie d'un orchestre.
Ouais.
Et adulte, donc grande, petite, du piano et du ukulélé.
Alors oui, j'ai joué du violon pendant des années. Après, j'ai vraiment arrêté la musique pendant au moins 20 ans. Ensuite, j'ai fait du ukulélé pendant quelques années. J'ai fait un album musical, j'en ai pas fait plusieurs, mais c'était un moment incroyable aussi. Et là, je fais du piano depuis peu de temps, donc c'est beaucoup plus difficile que le ukulélé, bien sûr. Donc je m'arrache les cheveux, mais c'est assez génial parce que j'ai la sensation physique de sentir les connexions se faire dans mon cerveau. C'est très différent des autres instruments parce que c'est pas linéaire, quoi. On est vraiment dans de l'architecture harmonique, donc c'est excitant, quoi.
Oui, parce qu'on peut faire plusieurs notes en même temps.
Voilà, c'est tout un orchestre, en fait.
Je réfléchis à voix haute, ce qui ne me rend pas forcément incroyablement fine. Je vous cite Dorothée de Montfred, « L'écriture me repose du dessin, le dessin me repose de l'écriture, la musique me repose de tout. » Il y a une question que je me suis toujours posée, est-ce que la musique ne toucherait pas à une aire du cerveau autre que celle qui est toujours en train de traiter justement les images, les mots, le signifiant?
Mais sûrement. Après, scientifiquement, je ne sais pas, mais je suis sûre que oui.
L'abstraction,
oui.
La sensorialité, il y a une chose animale, rythmique.
Ouais, très profonde. Après, ça communique. Hein. Enfin, je sais pas, moi, j'ai une tendance à la synesthésie. Je sais pas si vous connaissez.
Bien sûr. Le sein qui est de quelle couleur chez vous ?
Ah, alors ça dépend. J'en ai un qui est bleu foncé et un qui est bleu clair. Enfin, le sein, je sais plus si je réponds en chiffre ou en couleur. Le sein est bleu foncé.
Pour moi, il
mais
est
je
rouge.
Voulais dire, le bleu peut être 5 ou 4. Rouge ?
Ah ouais.
Mais ça va pas du tout, c'est 8.
Le 2 est jaune ?
Oui.
Ah, voilà. D'accord. La musique, ça vous influence aussi dans le dessin? Il y a un rythme musical dans vos albums?
Alors oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis très sensible à la chorégraphie dans mes albums. Vraiment, je cherche toujours à faire bouger les choses de manière rythmique pour que ça ait du sens. Et aussi parce que je suis toujours à la recherche d'un bon rapport au temps. C'est-à-dire quand on dessine, on est toujours dans un espèce de temps différé entre le moment où on dessine, le moment où le livre sort, le moment où il est lu. Contrairement à la musique où c'est du présent et si on chante dans un bar, ben, on peut pas mettre du Tipex, quoi. Donc moi, c'est quand j'ai fait ça, chanter dans un bar 100 mètres de Tipex, c'est quelque chose qui m'a fait progresser en dessin, parce qu'il faut jouer avec le présent et assumer ce qu'on fait sur le moment. Et c'est très intéressant d'amener cette sensibilité-là dans le dessin.
Vous sentiez déjà différente pendant les vacances dans un château dans lequel vos sœurs et cousines étaient en robe à smock, et vous à 4 ans en salopette avec un t-shirt Robin des Bois, l'un de vos héros.
Oui, ah oui, et ça, ça allait rester quand même. Le dessin animé de Walt Disney a été un éblouissement. J'ai adoré ce film. Ah oui, le renard en plus, hein, le goupil qui va prendre aux riches pour distribuer aux pauvres, ça me parlait beaucoup.
C'est Laure Murat qu'on entend dans l'émission en mai dernier. Vous l'avez choisi parmi vos découvertes, Dorothée de Montfred, pour les auditeurs. Son dernier livre, « Toutes les époques sont dégueulasses », justement sur le fait de censurer ou pas une œuvre.
Oui, j'ai lu ça cet été et c'est un tout petit livre qui se lit assez facilement et rapidement, qui est vraiment formidable parce qu'il met les idées au clair sur cette question de faut-il corriger ou pas, est-ce qu'on cancelle ou pas.
Elle est contre d'ailleurs, elle dit qu'il faut
contre.
Mettre en contexte.
Elle dit qu'il faut mettre dans le contexte parce que sinon on ne comprend plus les époques, on ne comprend plus les préjugés de certains auteurs et de certaines époques. Et surtout, elle explique que souvent, en fait, les raisons qui incitent à corriger sont plutôt mercantiles, plus que morale, quoi. Donc c'est très intéressant, elle remet l'église au centre du village, quoi, comme on dit.
Vous avez aussi choisi dans vos découvertes « Ballade » de Camille Pott.
Oui, alors ça c'est une bande dessinée incroyable que j'ai lue il y a quelques temps, avec au départ une réserve, parce que je me demandais ce que c'était que ce truc, avec des histoires de grenouilles, dans un espèce de dessin complètement déluré, un peu néo-70, et un langage façon chanson de geste, mais complètement pop. Donc j'ai mis du temps à rentrer dedans, et en fait, plus j'avançais dans cette bande dessinée, plus j'ai trouvé ça, mais absolument fabuleux. C'est très très drôle, c'est assez féministe, c'est très vengeur, et mais toujours hyper drôle, quoi. Donc je conseille cette bande dessinée à tout le monde.
De la minette roule dans un réservoir, de trambibus qui sont une gare à 20 minutes d'intervalle. Balle, balle, balle. Une paysanne, vanne, 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 porte tous ses œufs au marché. Un marchand des toffes, toffe, 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 à mon du 6 mètres donnera.
Mon Dieu, c'est l'arithmétique.
Tic, tic, tic.
Tic, tic,
extrait de L'Enfant et les Sortilèges, version de Laurent Mazel avec l'orchestre de la RTF, livret de Colette, orchestration de Ravel et votre disque préféré petite, Dorothée de Montfred, que vous écoutiez sur les genoux de votre mère. Vous en parlez dans Fantaisie lyrique, dans les coulisses de l'Opéra de Paris, aux éditions Charivari chez Dargaud.
Oui. Oui, oui, j'adorais ce disque. Et puis, quand j'étais très jeune, je baignais vraiment beaucoup dans la musique parce que ma mère faisait du chant baroque à l'époque. C'était la grande époque du renouveau du chant baroque. Donc, j'ai passé pas mal de temps aussi à suivre des répétitions et à vraiment voilà, à être dans cette atmosphère musicale. Et elle me racontait l'histoire de cette musique pendant que j'écoutais le disque, ce qui faisait que comme c'est assez ludique, vu qu'on entend un chat qui chante, un fauteuil, le feu, ça permettait en fait de rentrer dans une musique qui est peut-être pas facile d'accès au premier abord, de manière plus simple, quoi. Et puis le fait d'en parler avec quelqu'un qui nous accompagne dans l'écoute, c'est toujours une aide aussi.
C'est très très documenté, puisque c'est à la fois un reportage sur les coulisses de l'Opéra de Paris, puisque après les 100 ans de la production de cette œuvre, ils l'ont reprise en 2023 au Palais Garnier. Et c'est aussi une enquête sur Ravel et Colette, leur rapport, la création de l'œuvre. Et alors pour Ravel, vous êtes basé sur sa correspondance, et vous avez découvert qu'il était très drôle. Et pour Colette, vous avez un peu plus imaginé.
Non, j'ai pas un peu plus imaginé, mais en fait, Colette a beaucoup raconté... soit dans ses lettres, soit dans ses romans, sa vie. Donc en fait, je me suis basée là-dessus, sur ses récits à elle, et puis sur des biographies. C'est plus difficile pour Colette de se baser sur du courrier, parce qu'elle ne datait pas ses lettres. Donc voilà, c'est un peu plus flou. Et puis en plus, quand elle raconte l'histoire, elle, dans ses livres, elle donne une version qui est parfois pas exacte
oui,
de la réalité.
Oui, elle se contredit voilà. Un peu. Et parce qu'à un moment, vous dessinez Mathieu Sapin, qui dirige la collection, et il vous demande si ça s'est vraiment passé comme ça, et vous dites que vous extrapolez un peu.
Oui, parce qu'il y avait un gros flou sur la date à laquelle Jacques Roucher, qui était le directeur de l'Opéra de Paris à l'époque, a parlé pour la première fois du projet de faire une œuvre qui pourrait être accessible aux enfants à Colette. Et donc, moi, je ne savais pas si c'était en 1916, en 1913, en 1914, parce qu'il y avait des tas d'infos différentes qui circulaient partout. Et c'est comme ça que j'ai fini par situer la scène au Café de la Paix, qui est à côté de l'Opéra. Et puis après, j'ai trouvé un document qui disait que peut-être ils auraient parlé ensemble dans un salon littéraire et musical. Donc je revisite la scène une deuxième fois dans un autre lieu.
Et la vie de Ravel est très triste.
Ah oui, il a eu une vie difficile. Après, il a eu une enfance très heureuse. Il adorait sa famille, il adorait ses parents. Il leur était très attaché, mais ça a été très triste parce que quand il a perdu sa mère, il a eu un mal fou à s'en remettre. Et c'est pour ça aussi qu'il a mis beaucoup de temps à écrire L'Enfant et le Sortilège. Il a été très marqué par la guerre. C'est lui qui a tenu à s'engager, alors que normalement, il était réformé parce qu'il était d'une santé assez fragile, mais... Il a réussi à se faire engager comme conducteur de camion, mais ça l'a vraiment marqué. Et puis il était de santé très fragile, donc il a eu des soucis à la fin, des problèmes de cerveau. Et voilà, il est mort de façon précoce avant d'avoir écrit ce qu'il avait à écrire en musique. Donc c'est très triste, mais c'était quelqu'un qui, même s'il avait un côté assez dépressif, était extrêmement drôle. Et quand on lit ses lettres, c'est incroyable comme ça transparaît.
On en apprend autant sur Colette que sur Ravel, que sur L'Enfant et les Sortilèges, que sur l'Opéra de Paris. Et vous avez fait une page. L'opéra, c'est trop cher, justement, pour dézinguer cette idée, parce que vous voulez encourager tout le monde à aller à l'opéra.
Bah oui, parce que je trouve ça toujours un peu dommage de voir que pas mal de gens sont intimidés parce qu'ils n'ont jamais été...
On n'a pas les codes, on n'a pas les outils.
Bah, on pense qu'on n'a pas les codes, mais moi j'ai l'impression que même si on n'a pas les codes, c'est pas grave, on peut y aller. On peut y aller, il y a des moyens d'avoir accès à l'opéra à des prix relativement moins chers. Et puis même si on n'a pas les codes, c'est pas grave. Et même si on ne connaît pas la musique ou que c'est un truc dont on n'est pas spécialement fan, il y aura toujours quelque chose d'intéressant à découvrir, de toute façon.
Et je termine par un scoop. On vaporise de la vodka sur les affaires de danse pour ne pas les laver trop souvent et les abîmer. Ça, je l'ai découvert grâce à vous, Dorothée de Monfray. Je trouve ça incroyable. Juste pour terminer, est-ce que vous auriez un livre à recommander autant pour les enfants que pour les grands-enfants ?
Alors ça...
Ou alors un dessin, un petit exercice de dessin à donner aux auditeurs ?
Un exercice de dessin à donner aux auditeurs, ça peut être assez amusant. Je dirais aux auditeurs de se mettre peut-être par deux, face à face avec une feuille et un stylo et de se dessiner mutuellement sous forme d'animal. Parce que comme ça désinhibe, on n'a pas besoin de s'occuper trop de ressemblances et c'est une très bonne manière d'aborder le portrait.
Et ben merci beaucoup Dorothée de Monfred.
Merci Eva Bester.
Fantaisie lyrique dans les coulisses de l'Opéra de Paris est paru dans la collection Charivari chez Dargaud. Vous ferez des signatures au festival Quai des Bulles à Saint-Malo du 24 au 26 octobre, puis les 7 et 8 novembre à la Foire du Livre de Brive. Et le samedi 13 décembre à la Maison de la Radio, avant et après le concert L'Enfant et les Sortilèges, version de chambre créée pour les 100 ans de l'œuvre, de 16h à 17h, puis de 18h à 19h, vous ferez des signatures. Il y aura aussi des signatures dans plusieurs librairies. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site. Et le super livre de Contes des Toutous est lui paru à l'École des Loisirs. Vous le dédicacerez lors du prochain Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, samedi 29 novembre. À signaler aussi, mais vous l'avez beaucoup entendu toute la journée, Mon Petit France Inter, la nouvelle radio en direct destinée aux 6-12 ans, est disponible sur l'application Radio France. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïs Moreau.